que ça va, que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
À présenter l'histoire de la musique par période et par courant, on la tiendrait pour une suite de manières et de paradigmes qui finiraient par faire penser que les paradigmes sont réductibles à des périodes et réciproquement. Tout en essentialisant et surdéterminant les spécificités de telle ou telle génération ou sous-génération, les visions décennalisées de l'art en arrivent toujours à devoir sortir et n'en finissent de faire miroiter la fin de l'histoire, et pour mieux en sortir, à brouiller tout repère pour dire si on est avant, après, sur le côté ou définitivement en dessous. Et pour cause, toute démarche musicale ne pourrait alors plus tenir sa nouveauté que dans le dépassement des limites de ses aînés et la sortie des manières antérieures, alors réduites à paradigme. Cette logique de sortie, en apparence gentiment dialectique, est à la fois moderne, mais la modernité n'étant pas tout à fait qu'une période, s'agirait-il à un moment de l'histoire d'en arriver à en sortir ? L'aporie est trop belle pour ne pas y réfléchir, lui consacrer des œuvres et, dans l'heure qui vient, la creuser avec deux essayistes, Guy Lelong qui publie aux presses universitaires de Liège « Déduction de l'art » et Marc Goldschmidt qui vient de faire paraître l'effraction esthétique aux éditions Quimet. Extrait de La Mère de Debussy par l'orchestre du Festival de Lucerne dirigé par Claudio Abbado. Bonjour Guy Lelong.
Bonjour.
Quand vous entendez du Debussy, vous entendez la destitution du thème mélodico-rythmique au profit d'une exploration des propriétés du phénomène sonore.
Oui, alors tu rentres directement dans le livre. Le livre donc s'intitule Déduction de l'art, un récit transverse partant de Mallarmé. Et je pense quand même qu'il faudrait que j'en dise un mot pour que les gens
comprennent comment Mallarmé nous amène à Debussy,
voilà,
nous emmène à la destitution
gens,
du thème.
Voilà,
alors allons-y.
Les gens vont être un peu perdus.
Oui.
Donc je vais être le plus bref possible, puisque l'émission s'appelle Sortir. Je suis rendu compte, et j'aurais peut-être dû le mettre dans l'introduction d'ailleurs, mais c'est trop tard, qu'en fait mon livre propose une double sortie. Une sortie des, alors, ce qu'on appelle les paradigmes en art, hein, modernité, modernisme, postmodernité, car ces catégories générales, quand on les regarde de près, quand surtout quand on analyse de près les œuvres qui y sont rattachées, on voit que ça ne fonctionne pas du tout, parce que ces catégories sont à la fois trop larges et trop restreintes, trop larges parce qu'on va mettre dans le même paquet Mondrian et Duchamp qui n'ont rien à voir, trop restreintes parce qu'en fait il y a des liens par exemple entre Théophane de Hesburgh et Buren qui ont la même notion du virtuel, bon, pour le dire très vite. Il se trouve que j'ai analysé beaucoup d'œuvres, etc. Et que je me suis aperçu que ces catégories ne tenaient pas. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé sur Mallarmé. Et donc, ça commence plus ou moins comme ça, mon livre. Et donc, je dis que Mallarmé a fait une double révolution. C'est l'initiative au médium, d'une part, l'initiative au lieu ou au contexte, d'autre part. Et je me suis aperçu, en travaillant parallèlement ou en découvrant parallèlement les travaux in situ de Buren, la musique spectrale de Gérard Griset, l'architecture météorologique de Philippe Rame, que ces gens-là faisaient du Mallarmé sans le savoir.
Du point de vue de ce que vous appelez une initiative au médium, c'est ça ?
Soit médium, soit le contexte.
C'est quoi l'initiative au médium ?
L'initiative au médium, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'un sens préalable, mais qu'on part des particularités du médium. Alors pour Mallarmé, c'est les particularités majoritairement sonores, disons, ouais. Et c'est à partir du son, comme je l'explique dans la liste du sonnet en X, à partir du son qu'on déduit vraiment le récit, ou la petite fiction, disons. Il n'y a pas du tout de fiction préalable. Bon. Et puis il y a aussi la révolution du lieu, c'est qu'avec le livre et le coup de dé, il pense le lieu d'accueil comme étant générateur de la fiction. Mmh. Pour donner un exemple très simple, la page blanche qui tourne, ça va donner la voile du machin. Et donc je me suis aperçu qu'en fait, il y avait la même chose à un siècle d'écart. Et donc j'ai essayé de voir s'il y avait un fil qui continue. Et ce fil, je l'ai appelé un récit transverse en opposition aux notions de grands récits qu'ont inventé les postmodernes. Et ce récit transverse est évidemment un chemin au sentier qui bifurque.
Voilà. Ça, on va revenir à l'opposition au grand récit avec Marc Goldschmidt, il n'y a aucun souci.
Alors maintenant, on revient à Debussy.
C'est-à-dire que vous dites, en fait, que Debussy est un équivalent musical d'une destitution du sujet opérée par Mallarmé.
Voilà, absolument.
En quoi donc ?
Eh ben, c'est que Mallarmé donc destitue le sens préalable au profit donc c'est sa fameuse formule, le poète doit céder l'initiative au mot, et donc c'est le travail sur le mot, c'est ce qu'il avait dit à Degas, mais enfin Degas on n'écrit pas avec des idées, on écrit avec des mots, donc c'est le signifiant comme on disait à une époque qui est général
une époque postérieure d'ailleurs
hein
une époque postérieure
oui une époque postérieure mais enfin qui est un peu antérieure à nous
oui.
C'est le signifiant, le travail sur signifiant qui va vraiment produire les poèmes de Mallarmé, disons le second Mallarmé. Hein.
Et alors justement, le début de la mer qu'on vient d'entendre, Marc-André d'Albavy va expliquer que la mixture que fait Debussy vient de l'impressionnisme en tant que c'est la perception de l'auditeur qui construit un son fictif à partir des instruments réels ici agencés.
Absolument. L'auteur de l'art et l'illusion, l'historien de l'art, d'art et l'illusion, qui est fort connu, mais il est mort il n'y a pas très longtemps, juste son nom m'échappe, bon, c'est pas grave, a dit la même chose des impressionnistes, que c'était l'auditeur, le regardeur, pardon, qui reconstruisait finalement l'image, disons, à partir des touches séparées, etc. Donc, voilà.
Marc Goldschmidt, on fait bien de s'en prendre au grand récit dont nous parlait Jean-François Lyotard ? Parce que ça induit en fait une pensée de l'art qui justement mobilise des catégories dont Guy Lelong nous dit qu'elles sont à la fois trop larges et trop restreintes.
Oui, ça c'est une question difficile, surtout présenter mon livre et entrer en dialogue avec Guy Lelong sur une question qui est in medias res au milieu des choses. C'est un peu compliqué, donc je vais faire tenter un numéro d'équilibriste. Là, vous posez la question pour moi, d'abord, une détermination de la modernité par Lyotard, qui me semble tout de même cette détermination de la modernité discutable et problématique. En tout cas, elle est trop monogrammatique, elle est trop paradigmatique, si on veut reprendre ce concept. En tout cas, la question de la narration, elle se pose pour moi de la manière suivante. C'est que ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de faire une espèce de remontée dans les strates de la modernité pour essayer de mettre à jour, de faire émerger des choses qui me semblent être le pas gagné de la modernité à un moment, le nôtre, où on est dans une liquidation du travail moderne. Tout le monde se déclare anti-moderne ou occupe des positions anti-modernes. Et il me semble que ce que j'appelle modernité, qui est quelque chose de stratifié, c'est vraiment le meilleur, peut-être, de la pensée européenne. Et donc, la question de la narration, pour moi, si on l'associe au problème du discours, il me semble, et là je rejoindrai peut-être certaines choses que Guy Lelong vient de suggérer, il me semble que dans une modernité que j'appelle dernière, qui est à la fois accouchée par le romantisme allemand et qui en même temps l'interrompt, qu'on peut localiser, on va dire, en philosophie entre Nietzsche et Benjamin, c'est-à-dire entre 1870 et 1940. Dans l'écriture, on peut aussi lire Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, qui sont pour moi les trois grands modernes, en tout cas dans ce qu'on appelle la poésie. Ce qui me semble assez caractéristique de ce moment-là, qui est pour moi une dernière modernité, qui va finir tragiquement avec les catastrophes historiques du XXe siècle. Et donc le propos de mon livre, c'est justement de ne pas en finir, de revenir à ce qui pourrait rester de la modernité, de ce qui pourrait rester actif ou redevenir actif pour nous, dans un moment très anti-moderne. Et donc je dirais qu'une des grandes dimensions de la modernité, c'est qu'elle passe non pas par la dimension du discours ou de la narration, mais de l'écriture et de ce que Lerlin a appelé la parataxe. Donc on est dans une grande résistance souterraine à la narration, à la fois à l'intérieur de la narration, mais d'une certaine manière, la pensée de l'écriture moderne, celle qu'on a chez Baudelaire, chez Mallarmé, chez Rimbaud, c'est pas la même pensée. Celle qu'on a, qui va de Nietzsche à Benjamin, elle est un mouvement de l'écriture sous la peau du langage, dans la narration et contre elle. Il s'agit d'autre chose que de narration, c'est-à-dire il s'agit notamment de défaire le sens, de aussi briser le sujet et certainement se couper de toutes les tentations de l'absolu.
À la fois dans et contre, précisément, Guy Lelong, dans Figure 3, vous relevez dans donc le texte de Genette une déduction qui dit que le monologue intérieur qui est consacré par Ulysse de Joyce ne tient pas son essentiel dans le fait qu'il soit intérieur, mais qu'il soit d'emblée, dès les premières lignes, émancipé de tout patronage narratif. Et alors vous faites une opération qui est fascinante, c'est que vous vous en servez comme point d'appui pour penser la double multiplicité que sont la polytonalité et la polyrythmie dans les trois ballets russes de Stravinsky.
Oui, parce que j'ai regroupé dans un chapitre, donc c'est toujours mon récit transverse, donc il ne suit pas les catégories habituelles, mais ce que j'ai mis des catégories théoriques en fait, ou opératoires. Donc ce troisième chapitre, je crois, s'appelle Les appareils déjoués. En fait, ce que je dis, alors bon, c'est peut-être réfutable, mais enfin, ce que je dis, c'est que Mallarmé, les impressionnistes et Debussy ont cédé l'initiative au médium en toute insouciance. Je dis.
Presque en fait, sans y penser.
Non, c'est pas ça que je vous dis. En toute insouciance de règles.
Ah oui.
Chez Mallarmé, il y a des règles. Mais pour le dire vite. Après, les héritiers de ça, ils vont se trouver un peu coincés, si je puis dire. Et il y a deux tentatives qui vont avoir lieu. La première, donc, dans les appareils déjoués, c'est qu'il y a un certain nombre de protagonistes de l'art, à peu près à la même époque, qui vont casser les grands appareils qui tenaient, disons, l'art. Alors, donc, tout de suite, on pense effectivement au cubisme qui s'attaque à la perspective. On pense, qu'est-ce que je dis, du bad Joyce, effectivement, qui s'émancipe de tout patronage narratif. Donc, il casse toutes les. Il y a plus. Il y a dans les régimes d'un récit, il y a le récit d'événements, il y a des descriptions et des dialogues. Et tout ça s'enchaîne sans qu'on dise, pendant ce temps-là, il dit que je sais pas quoi, etc. Donc tout ça, c'est complètement... Hein. Et donc c'est pour ça que Genette appelle ça un discours immédiat, parce qu'il n'y a pas du tout de... C'est monté-cut, enfin il n'y a pas de... Et donc, pour la musique, c'est Stravinsky, et Stravinsky casse le modèle mélodico-rythmique harmonique pour faire une chose unique avec le sac du printemps qui n'est que du rythme, voilà. Et donc je pense qu'il y a une équivalence. Et en plus, il y a à chaque fois une revendication du sexuel, les Demoiselles d'Avignon, le sac du printemps, qu'est-ce que j'y dis, Joyce, ça se fait forcément. Et d'ailleurs, je rajoute la maison de la Villa Savoie de Le Corbusier, de la même époque, qui casse avec le plan libre, etc. Et puis en haut, c'est un truc pour le nudisme. Le nudisme, pas le ludisme.
Je propose un détour par Petrouchka dans la version pour piano, jouée par Pollini. Thank you. Marc Goldschmidt, vous nous avertissez que Jean-François Lyotard, quand il entend du Stravinsky, il entend à peu près la même chose que le leitmotiv de l'opéra wagnérien ou les dissonances des leaders de Wagner. Il entend le drame d'une subjectivité désaccordée d'avec elle-même. Et vous, vous nous dites que ce désaccord du sujet avec lui-même reste encore du domaine du dramatique, du narratif, et qu'il travestit en ce sens la désorientation en orientation, et en refusant la césure et la déchirure de l'art qui exige donc la fin de la modernité.
Oui, alors c'est vrai qu'en écoutant le Petrouchka de Poligny, je me demande si je suis encore d'accord avec ce que j'ai écrit, c'est-à-dire si je ne placerai pas l'accent ailleurs. Là, ce qui me semble problématique dans ce qu'a dit Lyotard, que j'ai essayé de faire glisser de manière discrète et presque insensible ailleurs, c'est que ça me semble encore très très proche de la manière assez violente et méchante dont Adorno interprète Stravinsky en le mettant en l'antagonisant avec Schoenberg. C'est-à-dire faisant que Stravinsky un néoclassique et un tenant de la narration et de quelque chose dans le fond attardé par rapport à la déconstruction schoenbergienne de la musique.
D'accord. Oui.
Et là, en écoutant l'admirable version de Poligny, du Petrouchka, et en vous entendant lire mon passage, je me dis que j'ai essayé de faire glisser Lyotard ailleurs. C'est-à-dire insensiblement vers l'idée que tout de même, Stravinsky, c'est assez double. Hein. C'est-à-dire qu'il y a encore du mélos, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'unité du sens, on entend très très bien. Mais ce mélos, il est à chaque fois, il n'est pas ce qui relève le rythme. Il est au contraire ce qui s'expose au rythme et à la cassure, aux incisions du rythme, qui sont de l'ordre presque de l'écriture par rapport au discours. Donc à la fois, il y a un discours qui est là par bribes. On a ça aussi chez Debussy, hein, dans certains, j'ai essayé de rejouer Jardin sous la pluie de troisième pièce des Estampes. Et la mélodie, elle est là par bribes, on la reconnaît, on croit la reconnaître. Hein, la mélodie de Petrouchka, on la suit parce qu'on la reconnaît. Et en même temps, d'abord, elle sonne faux. C'est-à-dire, à la fois, elle ressemble à la mélodie de Petrouchka, mais ça dissemble en même temps. C'est le paradoxe de les paradoxes de la ressemblance. Hein. Quand ça ressemble aussi, ça s'écarte, ça dissemble. Et en même temps, ce qui me frappe là en écoutant cette admirable version de Poligny, c'est que, dans le fond, je me demande si ce mélo, cette ligne mélodique, ou en tout cas ce film, ce sens, il n'est pas là pour être exposé au rythme et à quelque chose qui va le couper et qui va être rythmique, c'est-à-dire aussi en même temps, j'aimerais reprendre ce concept de l'erlinien, anti-rythmique. C'est-à-dire quelque chose qui coupe le souffle mélodique. Voilà, quelque chose avec des renversements où en fait la ligne mélodique, elle est mise en difficulté. Et ça veut dire que c'est le sujet qui est exposé à des blessures, à des incisions, et on entend par là que d'une certaine manière, c'est peut-être ça le fond de la musique, le fond rythmique. C'est comme si la blessure, elle précédait le sujet. Vous voyez, pas l'inverse. On pense, parce que c'est le bon sens, qu'il faut qu'il y ait un sujet, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un support, un suppôt de quoi, de qualité ou d'événement pour que quelque chose arrive à un sujet. Mais là, peut-être que avec la musique, on entend très fortement ce qu'on entend avec la poésie de Mallarmé ou avec Joyce. C'est que peut-être qu'il faut renverser les choses et que c'est le rythme qui est là d'abord.
Alors c'est ça les fractions esthétiques alors ?
Oui, d'une certaine manière, c'est ça.
C'est-à-dire une espèce d'interruption du discours qui vient en dire la trouée de possible, enfin que celui qui est en train d'essayer de s'énoncer est lui-même tremblant à l'intérieur de son énoncé quant à la possibilité de se dire dedans ou...
Je suis entièrement d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Je voudrais juste essayer très rapidement, pour ne pas prendre trop de temps de parole, parce que ce serait inélégant et hors de propos, mais dire que ce qui m'a intéressé dans ce livre-là et dans le précédent, c'est de m'engager dans une sorte de, comme je l'ai dit, de retour à la modernité, dans un moment qui est le nôtre, qui est très anti-moderne et d'allergie au travail de la modernité, qui est pour moi un travail de remémoration. Hein. Guy Lelong a cité James Joyce. On sait bien que Ulysses est tout entier un retour à Ulysse, à l'Odyssée d'Homère, mais un retour qui est un faux retour. Et donc, en même temps, il est hanté par entre autres choses, alors il est aussi hanté par... voilà. Mais ce retour en ana, c'est-à-dire en arrière, cette remontée vers le fond, vers au cœur des ténèbres de la culture occidentale, en même temps, c'est un retour vers quelque chose qui est introuvable et qui est définitivement perdu. Et là, c'est Ulysse, hein, c'est Odysseus. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'abord de montrer que la modernité, c'était un concept chronologique. Donc, il y a différentes époques de la modernité. La modernité cartésienne et spinoziste, donc la naissance du sujet qui se libère de l'autorité de la tradition et qui conquiert son autonomie et sa liberté. Alors chez Spinoza, c'est très différent parce que le sujet, il est d'une certaine manière, il est pas un empire dans l'empire qu'est la nature. Ensuite, il y a un événement kantien qui est irréductible et qui va...
Qui est donc pour vous la seconde modernité.
Qui est la seconde modernité, avec la réponse, la réaction romantique qui essaie de reconstituer dans l'œuvre d'art, au niveau de l'absolu, ce que Kant, d'une certaine manière, a coupé. Et Kant, il coupe le sujet de l'absolu, et en même temps, il rend la saisie du sujet par lui-même impossible. Et la troisième ou dernière modernité, celle qui va finir tragique, celle-là, elle est post-romantique. Elle est à la fois un enfant du romantisme, et donc à la fois c'est un concept épocal, chronologique, le concept de modernité, et c'est en même temps, comme le nom l'indique, un modernité, c'est-à-dire c'est la mode, c'est-à-dire quelque chose d'éphémère, dans lequel on essaie de saisir une essence. Et ça, c'est un concept paradoxal, donc dont on peut faire un usage métaphorique ou métonymique. Hein. On peut parler de la modernité de Homère par rapport à Platon, ou de la modernité de Platon par rapport à Aristote. Donc on en fait un usage métaphorique qui est très important, dont qu'on ne doit pas à aucun prix réduire. Et ce qu'on apprend de cette dernière modernité, c'est, comme je l'ai dit, qu'elle a lieu dans la dimension de l'écriture, qu'elle est toujours un travail de césure du sujet et de séparation avec l'absolu, donc de brisure de l'œuvre d'art, et qu'en même temps, elle passe par un travail d'anamnèse interminable. C'est-à-dire, c'est ça qui est admirable chez les modernes, que ce soit Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire, Nietzsche, Benjamin, Joyce, c'est qu'ils sont dans un travail de remémoration qui est interminable parce qu'on cherche quelque chose qui a été perdu définitivement. Et c'est ça l'idée de la modernité, c'est-à-dire nous on est dans un moment d'amnésie, on ne veut plus entendre parler du passé, et donc c'est ça le pari moderne d'une certaine manière, c'est peut-être ce qu'il y a de plus paradoxal, c'est que... La rupture ou la césure du sujet, de l'absolu, elle se fait à force de remémoration, d'anamnèse.
Mais c'est pour ça que dès qu'on pense une sortie, c'est comme si on se coupait trop de la question posée. Et quand, effectivement, on parle de Schoenberg dans l'histoire de la musique, alors on sort les gros énoncés, l'émancipation de la dissonance, la sortie du système tonal. Ça a justement un parfum paradigmatique quasiment de grand récit, justement, quand on dit les choses comme ça, Guy Lelong.
Je suis pas sûr.
Est-ce que vous préférez parler de Schoenberg en termes de réduction des constituants ?
Alors,
ça change un peu de
oui,
terme.
Oui, ça change beaucoup, en effet. Alors, d'abord, j'ai retrouvé le nom de l'historien de l'art, c'est Gombrich.
Bon,
c'est
ah oui, quand même.
Tout simplement. Bon, bref. Alors, très rapidement, je suis tout à fait d'accord pour Stravinsky, mais je ne sais pas si vous savez que Petrushka, il a d'abord trouvé un motif rythmique et c'est de ce motif rythmique qu'il a eu l'idée de la marionnette.
Alors, je ne savais pas, mais bon, je suis très content de le... ça confirme mon hypothèse.
Je reviens.
Quoique ça remet le mélo, c'est un peu... Enfin,
je reviens donc à ta question. Oui. Alors, après, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, après l'insouciance de Mallarmé, enfin, c'est un peu une plaisanterie de Mallarmé, de Debussy, etc., il y a donc une période où j'ai constaté, hein, c'est pas des catégories forcées, c'est vraiment après avoir analysé les œuvres que je les ai dégagées. Il y a donc j'ai dit, donc, une période de Picasso, de Joyce, Stravinsky qui casse, disons, les grands, ce qui tenait, disons, un peu la narration, pour aller vite. Et après, il y a une période, qui en contient d'ailleurs deux, qui est on va essayer de réduire le médium à ses constituants essentiels. Et ça se joue, c'est d'ailleurs très curieux historiquement, ça se joue dans les années, autour des années 20, puis ça va se rejouer autour des années 50.
Avec une pensée par paramètre.
Oui, enfin, c'est surtout, alors, dans les années 20, il suffit de penser à Mondrian, hein, pour 20-30, hein, tout de suite on voit de quoi on parle, bon, sans, j'ai pas besoin de... Bon. Mais à la même époque, dans ces traductions, il y a Miss van der Rohe qui fait Less is More, il y a Webern, il y a Kafka qui fait des nouvelles quand même extrêmement restreintes, et qui va d'ailleurs donner Beckett après, enfin, etc. Donc il y a vraiment une période où on veut vraiment réduire. Bon. Et ça, ça a été théorisé dans les années 60 par Clément Greenberg, qui est un historien de l'art ou un critique de l'art, et qui dit, lui c'est dans la peinture, et donc il dit qu'il faut réduire la peinture à son essence vitale. Je cite, je ne me trompe pas parce que j'ai revu la citation. Et donc, c'est un tournant essentialiste. C'est un tournant essentialiste, c'est-à-dire qu'on veut trouver ce que j'appelle, de manière ironique, le médium vrai, avec des guillemets autour de vrai. Bon. Et donc ça va se trouver, dans les années 50-60, va se trouver effectivement, donc c'est Pollock, etc., mais ça va être le nouveau roman, ça va être la musique sérielle, ça va être l'urbanisme des tours et des bars, ça n'a rien à voir, mais enfin c'est quand même aussi une réduction, là effrayante, mais enfin on a voulu absolument réduire, bon. Et puis alors, avec des déclarations intempestives, c'est que Greenberg dit, c'est pourquoi tous les peintres intéressants vont s'intéresser, parce qu'il donc, il déclare que c'est la surface plane qui est le constituant ultime de la peinture, parce que ça n'appartient à aucun autre médium. Et donc, tous les peintres intéressants vont évidemment se rapprocher de la surface plane. Et en même temps, Boulez dira, tous les compositeurs qui font pas de la musique de décaphonique sont inutiles. Ce qui est vraiment les mêmes déclarations fausses, évidemment, mais qui ont donné des choses.
C'est le même genre de réduction, vous voulez dire.
C'est le même genre de réduction, mais en plus, c'est très dogmatique. Et puis même un peu, si vous faites pas ça, vous êtes un imbécile. Enfin, grosso modo. Bon. Alors, donc, Schoenberg... Quand il met, donc d'abord il y a la suspension de la tonalité, parce que c'est ça sa formule. Hein, quand, dans les,
il parle pas de sortie, mais ouais.
Non, il parle de suspension de la tonalité. Voilà, ça c'est la vraie formule. Et après, il s'arrête 10 ans pour mettre au point le système sériel, parce que la période atonale est sans règles. Et là, pareil, il manque de règles, etc. Et donc il y a donc effectivement, c'est ce que j'appelle le réductionnisme. Qui a touché tout un nombre de gens. En même temps, il y a d'autres choses qui se font qui ne sont pas du tout... Parce que les récits transverses, ça se superpose. Il y en a, moi, j'en ai parlé d'un, mais on doit pouvoir sûrement faire le récit transverse des néos. Ça doit exister. Mais je ne l'écrirai pas. Bon.
Mais c'est un extrait,
je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Si, c'est une forme de réponse. Voici un extrait des variations plus 31 de Schoenberg dans la version de l'Orchestre de Chicago dirigée par Baron Boy. Vous faites comme ça donc des comparaisons de ce qui peut paraître incomparable, puisque l'expressionniste des drippings de Pollock et le raffinement polissé des textures libres de Boulez sont dans les deux cas, dites-vous, une réduction à des composantes essentielles, une indétermination du détail, l'uniformité all over par souci de non-hiérarchie.
Bah, je pense que si on analyse avec des outils sérieux, malgré la différence d'apparence, je pense qu'en effet, c'est pareil.
Voilà. Et Boulez et Morton Feldman aussi, c'est pareil.
Tous
les deux libèrent la musique occidentale de son temps mesuré habituel afin de la faire plutôt entendre dans l'étendue d'un espace.
Alors, ça, c'est une autre chose, c'est que dans les réductionnistes, il y en a, alors à mon avis, et c'est pas d'ailleurs un crime, hein, il y en a comme Pollock qui, de mon point de vue, sont vraiment réductionnistes, mais il y a un certain nombre de protagonistes de l'art qui ont échappé, en le sachant ou pas, je n'en sais rien, à ce qu'ils faisaient, et ont finalement presque parfois fait le contraire de ce que, des théories de Greenberg. C'est-à-dire que la pratique, des fois, bah, outrepasse la théorie. Bon, ça, c'est un truc qui est assez connu. Et de ce point de vue, le rapprochement de Boulez et de Feldman est amusant, parce qu'on ne s'aimait pas beaucoup. Enfin, en tout cas,
Oui, c'était pas la même ambiance. Oui.
Non, on va dire ça comme ça. Enfin, Feldman, en tout cas, n'aimait pas du tout Boulez, qui avait traité Ives d'amateur. Ça l'avait mis dans un état épouvantable. Enfin, bref, bon. Mais Boulez fait quelque chose d'assez rapidement, qui est la résonance non mesurée. Et j'ai l'impression que, alors j'ai pas lu tout ce qu'on écrit sur Boulez, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été assez peu relevé, mais je me trompe peut-être. C'est-à-dire qu'il fait un instrument résonnant, il le laisse résonner librement, et puis ça, il va s'éteindre, voilà. Et puis il en met plusieurs en même temps, qui ont des durées différentes, etc. Bon, et en même temps, c'est surtout dans ces éclats qui est la pièce manifeste de ça. Ça dure 9 minutes, donc ce qui est effectivement très court. En plus, c'est lui qui donne l'entrée des différents groupes qui ne sont pas fixés sur la partition. Donc il essaye d'échapper au temps occidental pour avoir plutôt un temps, on pourrait dire, un peu contemplatif. Mais c'est surtout qu'il sort effectivement de l'emprise du temps métrique. Et donc je dis qu'effectivement c'est plutôt une musique de l'étendue. Quant à Feldman, alors par des biais tout à fait autres, parce qu'en fait l'inspiration de Feldman, c'est le color field painting qui a été théorisé par Greenberg à propos de Barnett Newman, voire Rothko, etc. Et donc Barnett Newman, c'est cette étoile énorme dans laquelle, quand on est devant, on peut, contrairement à une toile plus traditionnelle où on voit le cadre, là on ne voit pas le cadre, on est vraiment à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'il a fait ces pièces extrêmement longues, certaines durent 5 heures, hein. Donc c'est impossible de mémoriser, etc. Et donc il appelait ça, ses compositions étaient des toiles de temps. Et donc effectivement il y a une temporalité qui complètement en dehors de la temporalité occidentale, et c'est pour ça que j'ai fait ce rapprochement un peu osé, c'est vrai.
mais éclairant, parce que ça permet effectivement d'écouter les
quand
deux.
Quand même, oui, j'ai essayé que ça. Non, j'ai pas fait ça. Ouais, j'ai pas fait ça pour que ce soit seulement osé. C'est pour que le but, c'est quand même que les gens comprennent quelque chose. Voilà. Bon. Alors, je fais une petite parenthèse. C'est vrai que moi, je parle de l'art, et vous parlez de la philosophie. Alors donc, évidemment, je comprends que vous remontiez à Descartes, Spinoza, Kant, etc. Bon, ma connaissance est un peu très limitée, mais enfin, moi, c'est vrai qu'en art, la modernité, ça commence avec Baudelaire. Hein, grosso modo, on ne parle pas de modernité avant. Enfin, c'est l'ère Baudelaire qui a inventé le terme, mais bon. Enfin bon, c'est une parenthèse.
Non, mais vous faites bien, et si je peux me permettre.
Oui, bien sûr.
En fait, je fais une remontée, on va dire, de la philosophie de l'art, de Lyotard à Kant, et je m'intéresse, j'essaie d'ausculter les traces de ce que j'appelle les fractions esthétiques, donc j'essaie de donner plusieurs déterminations en lisant les œuvres des philosophes et en m'interrogeant sur la question de savoir pourquoi tel et tel philosophe se sont exposés à la question de l'art et qu'est-ce qu'ils ont cherché en tant que philosophe dans les œuvres d'art qu'ils ont plus ou moins analysées. Hein. Vous avez des philosophies de l'art
qui ne citent jamais d'œuvre.
Alors c'est l'extraordinaire événement qui est la critique du jugement de Kant. À part un poème médiocre de Frédéric II, l'analytique du beau, Kant est très clair. Il dit que ce qui est beau, c'est une fleur plus qu'un tableau. Donc là, il s'agit de la beauté naturelle. Et on peut penser que la pensée kantienne et moderne de l'art, elle se trouve dans l'analytique du sublime. Et c'est ça qui m'a orienté vers la question des fractions esthétiques, c'est le sublime. C'est la première formulation pour moi de l'effraction esthétique. Et c'est aussi pour moi une vieille question.
Et c'est pour vous le début de la modernité en art, alors même si Guy Lelong nous rappelle qu'en termes de mots, ça apparaît avec Baudelaire.
Oui, c'est vrai, ça apparaît avec le concept de modernité, il apparaît avec le peintre de la vie moderne de Baudelaire, et c'est, si je ne me trompe pas, un mot de Balzac. Voilà. Mais... effectivement, pour moi, les fractions esthétiques, elle peut pas. On peut la lire avant la constitution de l'esthétique, mais l'esthétique se constitue au milieu et à la fin du XVIIIe siècle avec Baumgarten, avec Kant et avec Schiller. Et c'est à ce moment-là que la pensée d'une effraction esthétique de l'art, elle peut naître. Et si je peux me permettre. Mais peut-être que je vous laisse poser une question, parce que je voudrais aussi réagir.
Oui.
En fait, moi, il me semble, je ne voudrais pas, parce que ça n'a pas été mon sujet, analyser, m'engager dans l'analyse qui est l'objet de Guy Lelong d'œuvres des années 60, mais pour ce qui est des œuvres des années 20 ou 30, et notamment des textes de Kafka, de Ulysses de Joyce, de la naissance de la musique sérielle, il me semble que il y a un paradigme qu'il faut poser, qui est celui David Christoffel me sourit donc
ça me permet la transition.
Voilà, il me sourit parce que je pense qu'il a deviné que je vais parler de Wagner.
Oui.
C'est le paradigme avec lequel la modernité esthétique de l'art elle rompt. C'est-à-dire le projet d'une œuvre d'art totale avec fonction d'identification mythologique.
De communion,
où il s'agit de constituer une religion populaire esthétique. Et ça, ce projet-là, c'est vraiment ce que la modernité, elle va déposer et ce à quoi elle va résister. Et donc, ce que je trouve très catastrophique dans notre moment actuel d'amnésie et d'anti-modernité, c'est qu'on est dans une espèce de retour à Wagner.
Mais d'abord, juste avant ça, il y a le fait qu'on ait constitué le mouvement des avant-gardes musicales comme une espèce de synonyme de modernité, et que c'est donc posé la question de la sortie, comme s'il fallait sortir de ce paradigme, et comme si la sortie des avant-gardes devait donc liquider aussi la modernité. Et là, on a des espèces de tremblements conceptuels qui rendent les choses difficilement pensables. Effectivement, la transition, parce qu'on le décrit parfois du point de vue des histoires de la musique par période, du sérialisme au spectralisme, vous en savez quelque chose, Guy Lelong, vous avez beaucoup travaillé sur Gérard Griset, on la pense un peu comme une espèce de sortie des avant-gardes, ce qui est une espèce de non-sens à la fois. C'est comme si le spectralisme était un anti-modernisme ou un post-modernisme.
C'est en effet stupide, bon, pour le dire d'un
seul. Pour le dire clairement, oui.
Ce qu'on a appelé spectralisme, je pense que Griset se retournerait dans sa tombe en entendant ce mot.
Oui, il en préférait d'autres, il préférait l'inna.
Non, mais je pense que c'est l'isme qui devait l'agacer, mais qu'importe. Bon, la musique spectrale vient en effet d'une critique de la musique sérielle, mais... ils se sont pas mis à écrire en do majeur. Donc, moi, j'ai connu les années 80, j'ai trouvé ça épouvantable parce que je découvrais justement tout ça, etc. Puis je découvrais Buren, musique spectrale, etc. Parce que moi, je suis pas aussi pessimiste que vous. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui font des choses très très bien. Enfin, en art en tout cas. C'est pour ça que mettre la musique, il y a des gens qui mettent la musique spectrale dans le postmodernisme, ce qui montre bien que cette case est une case folle, enfin une case inepte, enfin bon,
oui.
Enfin de mon point de vue. Ce qui s'est passé, c'est que en effet, tous les réductionnistes, comme j'ai parlé tout à l'heure, ont voué un certain nombre d'interdits. Bon, il y a l'interdit de la consonance dans la musique sérielle, il y a l'interdit du romanesque dans le nouveau roman, il y a l'interdit de la figuration dans la peinture abstraite, enfin, etc., etc., etc. Bon. Et les interdits, au bout d'un moment, ça a des mauvais effets. Et donc, il y a deux manières de s'en sortir. Il y a une par le bas, alors ça, on la connaît, celle-là, la patouille, et tout ce qui est revenu dans les années 80, qu'on a heureusement un peu oublié. C'est pour ça que je ne suis pas aussi pessimiste, même si l'époque est épouvantable, je suis d'accord, mais enfin bon. Et puis, il y a des gens qui sont sortis par le haut. Et en effet, pour se limiter à la musique, Griset... a eu cette idée, enfin avec d'autres, Dufour, Muraille, Lévinas, enfin cette idée d'abord de changer l'unité de base de la musique, de passer de la note à la fréquence, et en faisant ça, élargir c'est ma deuxième sortie de mon livre d'ailleurs, c'est quitter le domaine de la musique pour arriver au chant sonore. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent. Et ça, il y a ça dans tous les domaines, hein, chant visuel, chant textuel, chant spatial, etc. Bon, bref. Et donc, Griset a réussi à réintroduire l'harmonicité et donc la consonance dans un dispositif général qui l'intègre. Et ce dispositif général, il n'est pas du tout néo. Donc, c'est donc.
Oui, mais des fois, il est réduit à une espèce de néo-sensualisme en disant ah, il y a le retour de la consonance, donc ça fait du bien, et puis ces sons bien, bien charnus.
Enfin, chez Griset, il y a aussi des sons qui vous arrachent bien les oreilles. Hein, donc,
ils ne sont pas charnus.
Non, mais ce que c'est là, d'ailleurs l'intérêt, c'est qu'il y a on va plutôt de la sinusoïde au bruit blanc, hein, selon sa formule. Donc, c'est vraiment, il y a tous les sons possibles. Hein, donc.
Et la preuve avec l'entracte qui arrive juste après partiel dans les espaces acoustiques. C'est un peu comme une bordure de l'œuvre, puisque l'entracte n'est pas toujours donné. Là, c'est la version 2013 dirigée par Pascal Roffet, la Cité de la Musique, avec l'ensemble intercontemporain et des étudiants du Conservatoire de Paris.
Oui, alors j'aime beaucoup ce passage, parce que je pense que justement, il élargit, parce qu'il intègre les sons du quotidien pour aller à l'entracte, où il y aura effectivement, dans l'entracte, il y a les sons du quotidien. Et donc l'idée, c'est que les instrumentistes vont faire des sons du quotidien. Alors, ça marche quand même mieux quand on a l'image.
Bon, alors, on a le clarinettiste qui démonte sa clarinette,
voilà,
on a l'agitation de partition.
Le mieux, c'est que je lise le texte. Je peux lire 5 lignes pour une fois, je vais lire ce texte qu'il m'avait dicté à l'époque. Donc,
que Griset lui-même vous a dicté.
Oui, c'est Griset lui-même qui m'a dicté, oui. Donc, alors, la fin de partiel se dirige progressivement vers le silence, mais le silence parfait n'existe pas. Il y a toujours un auditeur qui tousse, des instrumentistes qui font tomber leurs sourdines ou qui commencent à ranger leurs affaires. Aussi ai-je mis en scène cette impossibilité du silence. En fait, deux processus alternent. Le premier va du son vers le silence et le second du silence vers un ensemble de bruit emprunté à la vie quotidienne des instrumentistes. Page qu'on tourne, cornice qui vide l'euro, cordes qui rangent leurs archets. Mais à la fin, c'est vraiment le silence, car même le public est tenu en haleine, le percussionniste qui écarte lentement deux cymbales qu'il tient à bout de bras, laisse croire qu'un coup formidable va être frappé, mais il est arrêté par l'extinction des lumières qui signale le début de l'entracte. En termes musicaux, c'est une gigantesque anacrouse, une levée dont l'accent n'est donné qu'après l'entacte par le premier accord de modulation, sauf que le percussionniste manque son coup et les cymbales ne sont en fait frappées qu'à la toute fin de modulation.
Marc Gottschmidt, vous dites que l'ouverture de l'art à la contingence, à la spectralité, qui déchire l'esthétique comme une écriture, est le mode de la modernité.
Oui, moi je trouve que ce qu'on vient d'entendre et ce que vient de l'extrait de Griset que vient de lire Guy Lelon est assez, résonne assez fortement avec cet extrait, cette phrase de mon livre. Alors je dis modernité, jamais modernisme. Parce que les paradigmes sont défaits par la modernité. Et donc la modernité, elle est sans modernisme, et je ne suis pas pessimiste du tout. J'ai presque envie de dire c'est pire que ça.
C'est juste accablé. Hein.
C'est pire que ça. Mais ce que je trouve très fort dans la question de la modernité, en tout cas de la dernière, c'est qu'il y a évidemment un doute quant à l'art, quant à sa puissance et une immense inquiétude quant à ce qui vient, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, à la fois le capital dans sa forme ultime qui est la culture. Et donc, d'une certaine manière, avec la modernité, que ce soit celle de Manet en peinture, ou la picturalité, elle commence à s'exposer, ou que ce soit Rimbaud, ou qu'on aille un peu plus loin dans le temps, l'art doit entrer en régime minimal. C'est ce que peut-être ce que Guy Lelong appelle réduction. Il y a une espèce de passage dans un régime qui échappe aux reconductions ou à ce que Adorno appelle sa réification ou à sa relève dans notamment le capital culturel qui aujourd'hui est hégémonique. Vous allez dire que je suis pessimiste.
Non, là, je suis d'accord.
C'est bien au-delà de c'est bien en ça de la réalité. Et donc, cette condition minimale... alors, Lyotard dit des choses très belles. Il dit que l'art devient intraitable. En tout cas, que c'est ça. Ou Adorno peut dire aussi dans la théorie esthétique qu'il s'agit que les avant-gardes elles sauvent l'honneur de l'art en explorant des formes extrémistes.
En donnant aussi, il y a les œuvres du dadaïsme dont il dit que il y a un caractère irrécupérable comme objet de contemplation, ce qui veut bien dire que la contemplation peut plus être la finalité de l'expérience esthétique, et cette expérience esthétique, elle est ballottée entre le recueillement qu'il constitue en fait en école du comportement asocial pour la bourgeoisie dégénérée et la distraction dans laquelle il voit un mode de jeu du comportement social. C'est-à-dire qu'on est rattrapé par des postures socialisées, quoi.
Mais c'est ça, on est toujours rattrapé, donc on n'est jamais dehors, on n'arrive jamais à sortir. Alors c'est une autre manière, oui. Je vais faire de la rhétorique facile, mais on ne sort jamais, et ça veut dire aussi qu'on est déjà toujours dehors. Hein. Il n'y a que de l'extériorité. C'est ça la modernité, on ne sort jamais parce qu'il n'y a que de l'extériorité, donc on est d'une certaine manière, c'est une malédiction, ou une bénédiction selon la manière dont on vit cette extériorité. Si on l'affirme, c'est... Bon, voilà. Maintenant, ce que je veux ajouter aussi, c'est que il me semble qu'on entre aussi dans un régime de calcul de l'écriture. Quand j'entends la musique sérielle de Schoenberg, j'ai le sentiment tout de même d'abord que... Alors, je suis très sensible à ce qu'a dit Guy Lelong, à l'idée de réduction. Je trouve ça très fort. J'ai envie d'ajouter l'idée de sobriété de l'art. Il n'y a pas d'effusion et de communion wagnérienne. Et donc, on est dans un calcul et on est aussi dans une résistance à l'esthétisation de l'art et aussi à l'esthétisation de la politique. Ça me semble très important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, peut-être que l'art se met à exposer ses conditions de possibilité, à exposer ce qui est irreprésentable, c'est-à-dire le temps. Vous avez parlé de la toile de temps. C'est un geste très fort et très difficile de l'art qui passe par l'écriture. Exposer les... Il ne reste plus rien, dit Hölderlin, que les conditions, a priori, de l'espace et du temps.
Mais si la politisation de l'esthétique est aussi inséparable de l'esthétisation du politique, vous dites, en passant par Rancière, que c'est aussi parce que il y a une espèce de suspension des règles d'accord de la nature humaine d'une part et de la nature sociale d'autre part.
C'est assez Rancière qui dit ça.
Ouais.
Moi, je le suis pas beaucoup.
Détourer un peu sa pensée, oui, c'est ça.
Je ne le suis pas beaucoup. C'est-à-dire, autant dans La vie sans appui, j'ai commencé par une lecture d'Être et temps de Heidegger en essayant de montrer qu'il y avait une apologie de la religion chrétienne et tout de même que c'était une pensée théologique de l'existence, irréductiblement. Et là, il me semble que Rancière, pour des raisons multiples, d'abord, je n'ai lu qu'un, pour essayer d'être le moins malhonnête possible, je n'ai...
Vous avez concentré sur Malaise dans l'esthétique.
Voilà, ouais. Que Malaise dans l'esthétique. Donc on pourra toujours me reprocher de ne pas avoir lu d'autres textes. Mais il me semble que son idée d'un continuum esthétique social, donc un sensorium, ça a quelque chose. Alors peut-être qu'on trouverait ça très, très faux de ma part de dire ça, mais il y a une espèce de reconstitution de l'unité de la chair du monde chez Merleau-Ponty, sauf que là on n'est pas dans une ce que Merleau-Ponty appelle une ontologie du dedans, une ontologie du charnel qui se manifesterait dans la peinture. On est dans, j'ai envie de dire, une ontologie sociale, et moi ce continuum...
Mais il est possiblement dangereux en plus.
Je sais pas s'il est dangereux, je le trouve politiquement faible et je le trouve conceptuellement très indéterminé. Et ce qui me frappe beaucoup dans le travail de Rancière, c'est qu'il ne traverse pas les œuvres. C'est-à-dire très peu les œuvres d'art et alors encore moins les textes des auteurs qu'il cite. Notamment l'explication avec Lyotard, elle est très très étrange. Il est réduit à des énoncés que j'ai presque envie de dire journalistiques. Jamais aucun texte n'est cité. Ça, c'est vraiment pas moderne comme manière de travailler. Le moderne, il est hanté par le texte.
Alors, il fait pas ça pour Flaubert.
Oui, c'est vrai. Il fait pas ça pour
ça,
Flaubert.
Je trouve ce qu'il a fait sur Flaubert remarquable.
Oui, oui, je suis d'accord avec vous.
Mais moi, je connais pas très bien. Mais j'ai lu tout ce qu'il a fait sur Flaubert.
Mais moi, je me suis beaucoup,
vraiment les textes.
Je me suis beaucoup concentré sur ma thèse dans l'esthétique. J'ai essayé de suivre, notamment l'explication qui, pour moi, est pas déployée avec Lyotard. Elle est. Il y a beaucoup de sous-entendus. Et l'explication avec Benjamin, qui est écartée d'un. Ce qui cadre le texte de 1935-39 de Benjamin, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, c'est-à-dire ce geste très très fort et très bouleversant et très moderne de Benjamin qui dit que son texte est destiné à produire des concepts inutilisables pour le fascisme, sous-entendu le fascisme allemand, et qu'il s'agit de résister à l'esthétisation de la politique et de proposer une politisation de l'art. Ça, c'est pas du tout. Rancière ne met pas sa pensée à l'épreuve de ses énoncés, il les écarte. C'est très très étrange. Moi, ça me pose problème parce que, évidemment, comme il est en train de constituer une esthético-politique, la moindre des choses aurait été de s'expliquer longuement avec Benjamin.
Là où je disais que c'était dangereux, c'est que Hannah Arendt nous prévient que si l'art est intégralement politique, alors c'est le totalitarisme.
Moi, je dirais pas que c'est le totalitarisme là, parce que je dirais que il s'agit. C'est une conception, je sais pas. Certainement que le concept de diagramme du sensible est emprunté à Foucault, mais la manière dont les sans-parts participent à la politique par le sensorium esthétique et par ce que Rancière appelle la confusion esthétique, reprenant une idée qui me semble assez proche de ce qu'il y a chez Merleau-Ponty, tout ça, ça me semble très très flottant, pas très. On est vraiment pas dans le calcul de l'écriture là. On est dans une rhétorique dont je vois pas les effets politiques émancipateurs. Je vois l'annonce d'émancipation, mais je vois pas les effets. Et ça, je trouve que c'est problématique.
Guy Lelong, votre point de départ était Flaubert. L'un de vos points d'arrivée est Jean-Luc Hervé, qui fait des concerts installations, donc travaillant précisément, on sort de l'entracte des espaces acoustiques, sur comment est-ce que l'œuvre musicale, à la fois dialogue, va presque se perdre dans ses atours. Enfin...
Alors, elle ne se perd pas. Non,
ça reste une œuvre.
C'est long, là, mon dernier chapitre, qui était très long, doit faire 100 pages, mais l'articulation des champs, où j'explique en effet qu'il faut abandonner la notion de domaine, qui est une notion close. Boulez avait appelé d'ailleurs ses concerts le domaine musical. Je ne sais pas s'il a fait exprès. Enfin, bon, bref, ça c'est une vacherie en passant.
Allez.
Bon, mais donc j'explique que moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion de champ, et qu'effectivement. Alors déjà avec Griset, parce que c'est Griset qui met au point le champ sonore, déjà avec ce qu'on a entendu, effectivement, on sort du concert. Et donc, les gens dont je parle, que ce soit Buren qui sort du musée, Philippe Rame qui sort de l'architecture classique en passant les. Enfin, voilà, je vais pas résumer les 100 pages. Et donc, Jean-Luc Hervé, assez inspiré. Enfin, en tout cas, il se trouve que sa réflexion est venue en accord avec celle de Buren d'ailleurs. Il fait des pièces qui sortent du concert. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est de l'ordre du concert, et l'autre, il y a une partie électroacoustique qui est dehors. Donc, il y avait donc Germination, qui date de 2014, comme c'est l'idée il y a une métaphore, c'est plus qu'une métaphore botanique, parce qu'il a même utilisé des principes de la poussée des plantes, qui ont servi comme processus formel pour l'écriture de sa pièce. Et donc, il y a une pièce instrumentale donc, qui est donc dans l'espace de projection de l'IRCAM, donc sous la dalle de la place Stravinsky, là. Donc le son monte, etc., il y a germination, et après il y a une deuxième partie, et quand on sort, eh bien, il y a vraiment des plantes qui ont poussé à travers les interstices des dalles. Évidemment, elles n'ont pas poussé pendant le concert, mais enfin, l'idée c'est qu'on a l'impression que ce soit concrétisé avec une sortie à l'extérieur, et donc il y a donc une deuxième partie qui est hors du cadre du concert. Et donc de ce point de vue-là, c'est pour ça que j'appelle ça, on est de l'ordre du chant, du chant sonore. Et après germination, on lui a commandé une pièce qu'il a appelée les biotopes, qui sont des installations dans des musées, enfin, surtout sur l'exposition La Fabrique du Vivant, qui a été faite à Beaubourg, je ne sais plus en quelle année. Donc il met des haut-parleurs dans l'exposition, et en fait, on entend, si les gens parlent, ce qu'il appelle les espaces craintifs, c'est comme dans une forêt où il y a des oiseaux, si on fait du bruit, les oiseaux ne chantent pas, si on se tait, les oiseaux on se met à entendre des oiseaux qui se mettent à chanter. Donc là, c'est un peu pareil. Il y a un espace. Si les gens parlent trop, on n'entend rien. Quand les gens se taisent, tout d'un coup, on entend des sons qui passent, etc. Bon, bref. Et ça, c'est ce biotope. Il en a fait plusieurs versions. Et à la suite de ça, il a écrit une pièce qui vient de paraître en CD, qui s'appelle Topos. Et Topos est une extension instrumentale d'un biotope. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a un biotope, etc. Tout d'un coup arrivent des instrumentistes, etc. Et puis, il y a ce son un peu bruiteux, tu vas dire. Et puis, les instrumentistes se jouxtent, si je puis dire, à ça. Et puis, ça vient de plus en plus musical, entre guillemets. Enfin bon, on s'entend sur l'acception du terme. Et donc, il y a 4 ou 5 parties, je ne sais plus. Non, 4 parties. Il y a 4 parties. Et dans les interstices, on réentend le biotope, etc. Bon. Et je crois que c'est ça que tu veux.
Eh bien, on va terminer effectivement sur un extrait de cette pièce, Topos de Jean-Luc Hervé. Merci beaucoup, Guy Lelong. On peut donc lire Déduction de l'art, un récit transverse parlant de Mallarmé, Buren, Grisé, Danilevski, Ramnoé aux presses universitaires de Liège. Et Marc Goldschmidt, il faut donc lire les deux ouvrages, si j'ai bien compris, La vie sans appui et Les fractions esthétiques, tous les deux parus aux éditions Quimet. Thank you.